Voilà. Je crois que tout le monde a plus ou moins trouvé une place. Je vous souhaite bienvenue ce matin. Vous avez compris que le culte n'a pas encore commencé. Le culte sera dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est nous voilà autour des tables et ce sera une réflexion biblique. Donc, pas encore le culte. Le culte sera la deuxième partie que nous vivrons, où nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Il y aura la possibilité de prier les uns avec les autres, mais en restant autour de nos tables. Alors, toute explication utile interviendra dans un instant. Il n'y aura pas de prédication classique, si vous vous sentez un petit peu pressé par le temps. Non, il n'y aura pas de prédication dans la partie cultuelle de tout à l'heure. Et voilà, notre temps partagé ce matin va être conclu par un reportage d'Isabelle Scherer suite à son voyage au Bangladesh. J'aimerais prier pour ce temps que nous allons vivre ensemble. Nous prions. Nous voilà notre Dieu et notre Père céleste, réunis en ton nom. Nous te bénissons de ce que nous sommes pleinement accueillis grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous invoquons le secours de ton Esprit pour nous aider à bien saisir notre texte de ce matin. D'être renouvelés, fortifiés, encouragés mutuellement. Merci pour ces lieux, merci pour chacun ici présent. Nous nous remettons à toi, que ton nom soit honoré, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous invitons donc à une expérimentation, une exploration de la Bible qui n'est pas classique. Alors vous allez devoir vous changer un petit peu pour participer. Vous avez devant vous des objets, du sable, et aussi vous avez pour plusieurs tables des animateurs du groupe de jeunes qui eux ont fait cette expérience bien avant vous et qui vont vous entraîner aussi dans cette expérimentation. Dommage que vous êtes très... Enfin, non, c'est pas dommage, vous êtes très nombreux, merci. Mais le groupe de jeunes, il n'est pas aussi nombreux que vous. Donc, il y a des tables qui n'auront pas d'animateur, mais vous allez vous en sortir, j'en suis sûr. Alors, le principe, le premier principe, on va écouter un texte, le psaume 1. Vous avez le texte sur vos tables. Et c'est une journaliste de la Radio Suisse Romande qui va vous dire ce texte. On va l'écouter deux fois, parce que lorsqu'on écoute un texte d'une manière audio, souvent ça passe très vite, donc on va vous le passer deux fois, et vous allez la première fois juste prendre note, et la deuxième fois vous allez essayer de récupérer peut-être un ou deux éléments de ce texte que vous allez garder pour la suite. Donc vous allez vous focaliser sur un ou deux points. Voilà, alors on va écouter le texte.
Psaume 1, celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, Il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent. Mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Psaume 1. Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent. Mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte.
Comme le pasteur vous l'a dit, cette partie, c'est pas le culte. Donc, vous avez le droit de vous lever. Vous avez envie de prendre un café, vous prenez un café. Vous n'allez pas aux autres tables. Vous passez, vous restez dans votre groupe pour discuter. Mais vous avez le droit de vous lever. Vous n'avez pas besoin d'être figé. C'est pas le culte. Dans 45 minutes, il y aura la deuxième partie sur un quart d'heure, 20 minutes, où il y aura la partie vraiment culte. Voilà. Donc, ce que vous allez faire va remplacer la prédication. Donc, c'est important que vous puissiez parler. Parce que tout ce que vous allez faire, ces objets que vous avez, vous aideront à parler. Parce que souvent, lorsqu'on a quelque chose dans les mains, à trafiquer, on arrive mieux à s'exprimer, à parler. Et je pense que Jésus, lorsqu'il était en discussion à propos de la femme adultère avec les pharisiens et qui dessinait par terre, on ne sait pas ce qu'il a dessiné, mais je pense que c'est une manière pour lui de réfléchir à ce qu'il va dire à ses détracteurs. Donc, ces objets vont vous permettre de vous exprimer. Si vous ne parlez pas dans votre groupe, ce n'est pas bon. Si vous crêpez le chignon, c'est bon. Parce que c'est une confrontation d'idées. Et ce que vous allez, par exemple, vous avez le sable, vous allez... J'ai vu un groupe travailler, par exemple, ils ont repris le thème du conseil dans le psaume 1 et ils ont tracé des chemins dans le sable en disant, pour moi, quelques-uns ont dit, pour moi, le conseil, c'est comme un chemin qu'on trace dans... Et la discussion est partie de là. Donc, ceux qui ont l'habitude d'analyser un texte, laissez tomber ce truc d'analyse, ne prenez pas verset par verset votre psaume, vous prenez une idée dominante qui vous semble dominante, et vous la prenez. Donc, vous ne prenez pas le psaume 1 en prenant le verset 1, en disant, voilà, qu'est-ce qu'il veut dire, verset 2, verset 3, et ainsi de suite. Donc, vous prenez une idée dominante. L'autre chose qui est très important, c'est de ne pas faire ceux qui ont de la peinture à doigts, par exemple. Vous n'allez pas faire du dessin enfantin, dans le sens où vous dessinez un arbre et puis l'eau qui est dans les racines de l'arbre et tout ça. Vous allez travailler d'une façon analogique, donc pas de dessin ou de choses figuratives. Pour les gens qui ont du scotch, par exemple, ça va être plus difficile que ceux qui ont la peinture ou bien le sable. Dans la première partie, on va prendre à peu près 20 minutes, vous allez discuter, échanger, et après, vous allez prendre trois groupes, et chaque groupe va montrer ce qu'il aura fait. Ce sera une deuxième couche d'interprétation, en fait, qui va être ajoutée, donc c'est une composition en mille feuilles, dans une certaine mesure. Et puis, certaines personnes vont passer entre les tables pour vous Martine, entre autres, pour vous aider à, peut-être, lorsque vous êtes en panne, aller un petit peu plus loin. Donc, rappelez-vous, l'important, c'est de parler. Vous avez vos animateurs avec le fil rouge, là, qui vont vous aider, puisqu'ils ont, ils ont précédé dans cette expérience. Alors, allez-y. Voilà, on arrive déjà au bout de la première partie. Je regrette, mais l'heure avance. Donc, vous allez arrêter là vos discussions et vous allez vous lever. Donc, vous choisissez deux groupes qui sont à proximité de chez vous et les deux groupes vont rejoindre le premier et vous allez expliquer rapidement ce que vous avez voulu dire. Vous mandatez quelqu'un qui explique ce que représente votre dessin. Donc, le dessin va vous servir simplement d'expliquer. Donc, vous faites ça rapidement. On a 5 minutes, 5-6 minutes. Ça fait rien. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas arrivé à un bout, au bout de votre discussion, c'est pas grave. Mais il faut qu'on avance. Donc, vous vous levez. Là, on va mettre, par exemple, ces trois tables. Vous mettez les trois tables là comme ça, et puis vous cherchez trois autres tables. Vous vous levez maintenant et vous partagez, simplement. 5 minutes. Allez-y. Voilà, nous terminons cette première partie. Asseyez-vous dans vos groupes. Tournez les chaises vers le devant de la, vers le devant de la scène. Nous passons dans la deuxième partie du culte. Enfin, nous passons dans le culte. Vous pouvez tourner votre chaise là. Tournez votre chaise vers ici. Tournez votre chaise vers ici. Merci au groupe de jeunes qui nous a accompagnés. On va faire un moment de silence. Et vous allez en même temps pouvoir réfléchir ce que vous pourriez dire en relation avec ce que vous avez vécu dans le psaume, avec le psaume 1, ce que vous pourriez dire dans une prière pour la suite.
écrit. Puis qu'est-ce que je fais là, au milieu de vous? Alors je vais vous raconter mon histoire. J'ai pas de prénom, en tout cas pas à ma connaissance. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas loin de 150 ans. Et puis que, comme moi, mes parents travaillaient dans les fruits. J'ai toujours été bien entouré. Mes parents habitaient un peu plus loin, là-haut, sur le fleuve. Le coin est très sympa, j'y suis bien. En fait, j'habite ici depuis ma naissance. C'est très calme, souvent des gens passent, et puis ils viennent s'asseoir avec moi, et puis nous discutons. Ce qui est surtout bien ici, c'est que j'habite avec un fleuve. Ce fleuve, ce beau fleuve qui passe devant moi. Il est si beau, si doux, si calme. J'y puise toute mon énergie. Il me rafraîchit et me fortifie, je grandis. Ça me fait du bien. Mais bon, comme vous imaginez, ma vie n'a pas été toujours un conte de fées. Hein. On passe tous par des moments difficiles. Tout d'abord, quand j'étais jeune, les gens du village ont eu la mauvaise idée de construire une usine, là, juste derrière moi. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête et qu'est-ce qu'ils voulaient venir me faire, mais... Voilà, depuis ce jour-là, ça n'a plus été pareil. Qu'est-ce qu'elle puait, cette usine? Et puis, qu'est-ce qu'elle était bruyante? Je ne sais pas ce qu'on y fabriquait, mais en tout cas, je peux vous dire que ça m'a rendu bien malade. Ça m'envoyait tout un tas de déchets, je me sentais comme étouffé, oppressé. Je savais plus où donner de la tête, je savais plus comment m'en sortir. Il y en avait partout, de ces déchets. Même le fleuve qui était là à mes pieds ne suffisait plus pour me soigner. J'entendais même plus l'eau ricocher contre les pierres, contre les rochers de la berge. J'aurais voulu partir, m'enfuir, loin d'ici, pour retrouver peut-être une vie meilleure, mais je ne pouvais pas. J'étais ici, et puis, ben, comme vous le voyez, je ne peux pas bouger. Tout était sale autour de moi, et je pense que je l'étais tout autant. Et toujours ce fleuve qui était là devant moi, je ne savais pas comment l'atteindre. J'essayais d'étirer mes bras vers lui, mais non, chacun de mes gestes était anéanti par encore les déchets de cette usine. C'était horrible. Et puis un jour, j'étais devenu si faible. J'étais tout faible, plus aucune énergie. Et bien, une de mes branches cassa. Et puis, je vais dire par bonheur, elle est tombée pile poil sur le toit de l'usine. J'ai entendu un gros bruit. Et puis, d'un coup, plus rien. Je crois que j'avais cassé l'usine. Eh bien oui, tout s'était arrêté. Plus d'usine, plus de déchets. Quel bonheur! La pollution était loin de moi, j'allais retrouver ma vie avant. Le fleuve qui était là, j'allais enfin pouvoir le retrouver. Oh, ce fleuve, mon fleuve bien-aimé. Alors oui, je retrouvais rapidement ma forme. J'étais redevenu ce que j'étais avant. J'étais de nouveau avec mon fleuve, nous communiquions, nous étions de nouveau en communion. C'était incroyable. Et puis, quelques années passèrent comme ça. C'est vrai, j'ai 150 ans, j'ai le temps de vivre. Et puis un jour, de nouveau, quelque chose de terrible dans ma vie. Mon père, qui habitait un peu plus loin, là-bas, le long du fleuve, était très malade. Il était aussi devenu tout faible. Et puis un jour, un gros coup de vent, une grosse bourrasque, le cassa. Et son tronc tomba en travers du fleuve. Et mon père était si grand, il prenait tellement de place qu'il en détourna le cours du fleuve. Plus une goutte d'eau n'arrivait jusqu'à moi. Moi, j'étais tellement attristé par la mort de mon père que je ne me rendais même pas compte ce qui m'arrivait. Plus aucune eau, plus de fleuve, mais voilà, j'étais tellement chagriné que je ne me rendais pas compte. Je dépérissais à vue d'œil, ma peau devenait toute sèche, je me craquelais. Mon teint changeait, je perdais mes cheveux, mes feuilles. De nouveau, j'aurais voulu partir, m'enfuir dans un endroit où la vie était facile. Il paraît qu'il y a des endroits où on peut carrément vous nourrir avec des machines. Je crois que ça s'appelle une pépinière. Et puis, c'est facile, on n'a même plus besoin du fleuve. Les gens viennent, ils vous nourrissent. Ça a l'air tellement plus facile. Mais non, à nouveau, je ne pouvais pas. J'étais ici, je ne pouvais pas bouger, il fallait faire face. Et de nouveau, un jour, alors que j'étais encore une fois très très faible, je n'avais quasiment plus aucun cheveu sur la tête, elles étaient toutes tombées. Le fleuve se fit si gros, il était si puissant, que le tronc, le corps de mon père se cassa. Et mon père fut emmené loin de moi, je ne le voyais plus. Quel miracle, le fleuve allait à nouveau venir jusqu'à moi. Il reprenait son cours habituel. J'étais sauvé. Le fleuve était devenu très fort, si fort qu'il avait poussé jusqu'à venir me retrouver. Et Cette sensation que j'avais oubliée, que j'avais failli oublier depuis des années, j'allais la connaître à nouveau. Cette sensation rafraîchissante et fortifiante. J'étais à nouveau sauvé. Et encore une fois, les années ont passé. Et puis aujourd'hui, j'ai jamais été en aussi bonne santé. Je suis heureux. Le fleuve n'a jamais voulu me quitter. Parfois, je l'avais perdu des yeux ou je ne savais plus comment l'atteindre, mais lui n'a jamais voulu me quitter. C'est même lui qui est venu vers moi pour me retrouver. Depuis ce jour, nous n'avons jamais été séparés. Et ces eaux pures dans lesquelles baignent mes racines me permettront de vivre peut-être 100 ans encore. Moi, je pense que, vu comme je suis, je ne voyagerai pas, je ne voyagerai plus. Mais je pense que mes enfants, portés par le vent, iront voyager aux quatre coins du monde. Et j'espère qu'eux aussi, ils trouveront un petit coin de terre au bord d'un fleuve et qu'ils y couleront des jours heureux.
À la nouvelle que nous avions apprise, n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe la laine, il a gardé le silence. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants, et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause de ses souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands.
pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus.
Psaume 1. Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent. Mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte.
Est-ce que je peux vous inviter à vous mettre debout pour la bénédiction ? Justifié, poussé comme le palmier, bien planté dans ta maison, Seigneur, fleurissez sur les parvis de ton temple, du temple de notre Dieu. Soyez fécond jusqu'en votre vieillesse, restez plein de sève et de vigueur pour proclamer que notre Dieu est droit. Puisant dans la force, la sève de notre Seigneur. Amen. Il y aura encore quelques annonces et puis nous allons assister au reportage du séjour d'Isabelle à Bangladesh. Mais notre culte est terminé. Si vous avez des obligations, vous devez sentir en toute liberté de nous quitter. Alors je laisse.
Les annonces seront projetées après le reportage d'Isabelle sur le Beamer, mais j'en ai deux à ajouter. La première, c'est le concert de ce soir en faveur d'Haïti qui se passe ici dans nos locaux. Donc j'imagine qu'il doit y avoir encore des flyers sur le présentoir. C'est donc aujourd'hui à 17h dans nos locaux. Et la deuxième annonce, c'est pour le dimanche prochain. Ceux qui aimeraient prolonger le culte avec un repas, ce sera possible, car nous faisons un repas canadien. Donc soyez les bienvenus dimanche prochain après le culte pour ce repas.
Alors on attend Isabelle. Je peux bien meubler un petit peu. Ah voilà.
En fait, c'est pas un reportage, hein. C'est juste pour vous raconter un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu. J'ai essayé de faire de loterie dans mes photos et dans mes souvenirs, parce qu'il y a tellement de choses en 3 mois que c'était pas facile. Et puis, ensuite, vous pourrez me poser aussi des questions, parce que peut-être en voyant les photos derrière moi ou en m'écoutant, vous aurez 2-3 idées. Donc, comment je suis arrivée à partir déjà ? C'était il y a une année, j'ai arrêté l'école que j'avais entamée, j'avais envie de partir, j'avais envie de faire des stages, j'ai envie de commencer l'école de physio. Et puis j'ai vu l'annonce de la famille Negrini, qui a besoin d'école pour faire, qui a besoin d'aide pour faire l'école à leurs enfants. Et c'est vrai que moi, le Bangladesh, alors je ne savais pas du tout où c'était. La famille Negrini, je m'en rappelais un petit peu parce que j'avais vu les photos. Et donc en fait, je les ai contactés, on a échangé quelques emails, on a tout de suite pris contact et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une expérience qui allait regrouper toutes mes envies. Donc ce soit le voyage, l'aide, la découverte d'un autre pays. Et comme Jean-François est chirurgien, j'allais pouvoir assister à de nombreuses opérations et voir des choses dans un hôpital qu'on n'aurait pas forcément en Suisse. Je n'avais pas tellement d'attentes particulières de ce voyage, à part simplement changer d'air, voir autre chose et rencontrer un petit peu notre population aussi. Pour ce qui est de mes premières impressions, une fois à l'aéroport déjà, parce que je suis passée par Dubaï, et une fois que je suis arrivée déjà au gate et qu'il y avait tous ces Bangladais, voilà, je ne sais jamais comment on dit, mais Bengali, d'accord, ok. C'est vrai que déjà là, j'avais les premières odeurs du pays. Alors déjà, en tant que femme blanche, on arrive au milieu d'une population quand même assez foncée. Et ces premières odeurs, je me suis dit, bon, ben voilà, cette fois, j'y arrive gentiment. Et puis, après la première grande impression, c'était vraiment une fois sortie de l'aéroport à Dakar, où là, il y a cette premier bouffée d'air, toute cette humidité, tous les regards, parce qu'évidemment, il y a tout le monde qui attend des gens à l'aéroport. Ça, c'était vraiment... je me suis dit, bon, cette fois, j'y suis. Que ce soit aussi après dans la voiture avec Anne et Maïka. Tout de suite, on est dans ce chaos de la ville, on est au milieu des mendiants qui viennent toquer aux vitres pour vous vendre des objets ou pour tout simplement vous demander de l'argent. Pour ce qui est de la famille Negrini, j'ai peut-être comme juste rappelé, donc ils ont 4 enfants. Il y a d'abord Elina qui a 11 ans, Maïka a 8 ans, Naïva 5 ans et Ayal qui a 2 ans. Moi, je m'occupais principalement de Naïva et Maïka. On travaillait beaucoup les sciences, les maths, un petit peu de français. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. C'est des filles qui sont intelligentes, qui sont super vives. C'est des petits singes, quoi. Ouais. Si jamais vous avez des questions sur les photos, vous me dites. Quoi dire ? Pour ce qui est de l'accueil des enfants, c'est comme si j'avais toujours été là. Le premier soir, ils m'ont direct sauté dans les bras, on m'a posé plein de questions. Je me suis sentie vraiment bien accueillie, c'est vrai que c'était très agréable. Je voulais parler aussi un petit peu par rapport à l'hôpital, en fait. La première semaine où je suis arrivée, on est allé dans un petit village un petit peu plus loin pour aller à l'église, parce qu'en fait, ils y vont à peu près une fois par mois et c'est à 1 ou 2 heures de route. Et Jean-François devait voir une patiente qui avait été brûlée sur tout le haut du corps. Et c'était 2 jours après les greffes. Donc, je suis intéressée, je suis allée voir un petit peu. Et c'était juste l'horreur. Pas la vue des plaies, parce qu'à la limite, ça, je suis pas trop sensible. Mais de l'avoir hurlé, crié, d'implorer Allah et tous ces trucs, ça prend aux tripes. Et je me suis dit, mais je vais jamais tenir 3 mois, quoi. Donc, j'ai pris un peu sur moi. Et c'est vrai qu'au final, on s'habitue vite, on rencontre des gens, des infirmières. Moi, ce que j'appréciais beaucoup, c'était surtout d'être, pas le fait d'être invité, mais c'est des gens qui sont hyper généreux. Donc, ils vont vous inviter à manger, ils vont vous servir des rations énormes, et puis ils vont rester à côté de vous à vous regarder manger. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir, en fait, juste de pouvoir sortir du campement, parce que ça fait 700 mètres sur 1 km à peu près. Il y a des gardes, il y en a un peu des fils barbelés, comme ça peut paraître un petit peu une prison, mais pas du tout. C'est quand même très grand, c'est très vert, donc c'est plein de rizières. Et c'est vrai que moi j'appréciais de pouvoir sortir, que ce soit dans le village, pour faire des petites boutiques, aller boire un petit thé, manger des petites sucreries. Ça, j'appréciais beaucoup. Et j'ai eu l'occasion aussi une fois d'aller faire un tour dans un village pour rencontrer des anciens patients léprologiques. Et voilà, pareil, la ruée autour de vous, c'est des gens qui sont hyper curieux, à la limite intrusifs. Ils vont rester à 1 mètre de vous, à vous regarder et à vous poser plein de questions. Ils ne parlent pas un mot d'anglais, ou alors c'est « Hello, what's your name? What is your country ?» Et après, ils ne comprennent plus rien. Voilà. Pour ce qui était de mes journées, je me levais, je prenais mon petit déjeuner. J'avais ma maison à moi en dehors de celle des Negrini. Donc ça, c'est vrai que c'était assez agréable de pouvoir avoir mon refuge et pas être tout le temps avec les enfants. Parce que malgré tout, ils sont quand même hyper actifs. Ça fatigue et c'est bien d'avoir son petit coin à soi. Donc je me levais, je prenais mon petit déjeuner, j'allais chez les Negrini pour faire l'école. Et tous les matins, Eyal qui me sautait dans les bras, qui criait. Et c'est vrai que des accueils comme ça, on n'en a pas tous les... Enfin, pas tous les jours d'avoir des enfants qui sont ravis de vous voir et qui sont contents de pouvoir faire l'école. Donc on travaillait jusqu'à 11h30 midi. Ensuite j'allais prendre mon repas au guest house qui était aussi à 200 mètres. Le cuisinier était très sympa, j'avais des plats locaux. Donc c'est principalement du riz avec du dal, donc c'est comme des lentilles mais jaunes. C'est plus ou moins épicé, donc après il essayait de tester mes limites de ce que je pouvais avaler. Beaucoup de légumes, principalement du poulet, de la chèvre, du bœuf, très peu de porc évidemment. Ensuite je revenais à 2h, on continuait un petit peu et puis l'après-midi on faisait d'autres activités. Donc j'avais pris avec moi mes engins de gymnastique rythmique et j'ai essayé de leur apprendre quelques mouvements. Sauf que je me suis rendu compte qu'elles n'avaient aucune coordination. Mais quand je dis aucune coordination, c'est vous essayez de les faire sauter à pieds joints, c'est impossible. Et au final, il y avait Maïka, celle de 8 ans, qui est une fille très persévérante. Elle a beaucoup travaillé et on a réussi à faire tout un petit enchaînement, donc à faire des sauts pieds joints en avant, en arrière, à croiser. Et c'est vrai que ça, pour elle, c'est quelque chose de super, parce que même si c'est des petits singes qu'elles grimpent dans les arbres, elles n'ont pas tellement l'occasion de faire ce genre d'activité. Donc j'ai essayé au mieux de pouvoir leur apporter aussi ce côté-là. J'ai fait plusieurs virées. J'ai eu la chance, entre guillemets, de visiter un centre pour femmes maltraitées. Donc c'est des histoires assez terribles, c'est des femmes violées, c'est des femmes qui ont été rejetées, enfin, avec des enfants aussi. Et c'est vrai que... je crois que... Ah ouais, ça je vous expliquerai. C'était assez enrichissant en fait de rencontrer ces femmes et puis de les voir sourire parce qu'on s'intéresse à elles mais de manière sincère et pas mal intentionnée. On a passé aussi 10 jours dans le sud du pays parce que moi j'étais tout au nord-ouest. On a passé 10 jours dans le sud pour faire des petites vacances et là c'était super aussi parce que c'était tout un autre paysage. Donc c'était beaucoup plus la jungle, Au niveau même des araignées, ça n'avait rien à voir avec les petites que j'avais dans la maison. C'était aussi d'autres tribus, donc c'est des gens qui sont plus typés de Birmanie. C'est presque un autre pays. On a pu dormir dans un petit cottage. Je crois qu'il y aura aussi une photo à un moment donné. Mais on n'avait pas tellement d'eau chaude, donc c'était... Voilà. Ça aussi, c'est... Quand je suis arrivée, c'est quelque chose qui a marqué chez moi. Je m'étais réjouie parce que j'ai dit « Ah, c'est super, j'ai une grande chambre, j'ai un grand lit avec ma moustiquaire, j'ai ma salle de bain. » Puis en fait, après, quand ils ont vu les photos, c'était assez austère. Mais c'est vrai que quand on compare avec les gens qui habitent à 200 mètres, c'est le luxe, quoi. Parce qu'ils ont des toits qui sont en bambou, ils n'ont pas d'eau, ils vivent avec 2 vaches et 3 poules et c'est à peu près tout. Et après, ben, quand vous allez manger chez eux, vous avez toute la ration de viande et oui, ils vous servent comme des rois. C'est vrai que ça, c'était presque un petit peu gênant au départ. Tout comme le fait que la famille a 2 aides à la maison. Elles s'occupent des yales, elles font aussi un petit peu l'ordre et le ménage. Et c'est vrai que, quoi, pour moi, ça me paraissait... J'étais gênée. Au début, c'est vrai que j'avais de la peine de voir ces 2 femmes qui travaillaient beaucoup autour de nous. C'est pas forcément dans nos coutumes, et au final, pour finir aussi faible, c'est vrai qu'elles sont pas... Enfin, elles sont traitées comme nous, enfin... C'est pour elle, c'est presque même une chance de pouvoir être auprès de la famille Negrini et d'avoir un lieu sûr comme ça. J'essaie de raccourcir un peu parce que sinon je vais... Pour ce qui est de la culture en elle-même, donc la majorité c'est des musulmans ou des hindous. Donc le soir quand j'étais dans ma petite véranda, j'entendais souvent de la musique, des chants, des cris, c'était assez animé. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'on a été plusieurs fois invités, que ce soit par des musulmans ou par des hindous. Donc, c'était intéressant de voir les différences. Et là aussi, c'était assez gênant parce que les hindous, ils viennent, puis ils vont s'agenouiller, ils vont vous embrasser les pieds, ils vont... Enfin, c'est assez embarrassant. Déjà, rien que le fait qu'ils vous regardent manger. Et puis, moi, j'essayais de manger avec les mains, donc c'est toute une technique. Et j'étais toute contente parce que j'arrivais bien. Puis une fois, il y a l'une des femmes qui nous avait invitées, elle m'a proposé d'avoir une cuillère. Ça m'a un petit peu vexée. Autrement, j'ai lié beaucoup de contacts avec l'une des infirmières. C'est vrai que j'ai découvert que c'est un peuple hyper sensible et puis très ouvert. Ils vont vous raconter tous leurs soucis qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a nous. Tout en gardant le sourire, il a une joie de vivre assez impressionnante. Ensuite, on avait droit au mois d'une aussi 5 fois par jour. Ça, on s'y habitue. Après, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous parler de toutes les petites bestioles. On m'avait demandé aussi, alors, est-ce qu'il y a des serpents, des araignées? Alors, serpents, moi, j'en ai pas vu. Mais apparemment, Rebecca, au bout d'une semaine, elle en a rencontré un. Hein, donc, voilà. Et j'ai eu une fois une grosse araignée. Je suis pas particulièrement sensible, mais c'est vrai que ça surprend. Il y avait beaucoup ce qu'ils appellent les tiki-tiki. Donc, c'est comme les geckos, les geckos, je sais pas comment vous dites. Donc c'est assez sympa, ça fait une petite présence dans la maison quand ils font leurs petits claquements. Voilà. Après, évidemment, il y a les coupures de courant 2-3 fois par jour pendant 10 secondes. L'eau froide, la douche qui ne marche pas toujours. J'ai ensuite eu aussi un colocataire. Donc ça, c'est vrai que c'était assez sympa parce que j'avais quand même une grande maison, donc une cuisine et ma chambre, et il y avait une autre qui était destinée à ce monsieur qui venait aussi s'occuper des voisins des Negrini. Donc c'est des Américains qui sont là aussi depuis plusieurs années. Ils ont également 3 enfants en âge de scolarité, donc les parents ont besoin d'aide. Donc ça, c'est vrai que c'est très enrichissant. C'était un monsieur de 72 ans. On a eu des moments assez forts, plutôt vers la fin de mon séjour, où on a eu des partages. En fait, il était intéressé de lire certains passages bibliques et de comparer la version anglaise et française. Puis après, d'échanger un petit peu, c'est vrai que c'était assez fort. de ce point de vue-là, c'est vrai que ça m'a fait du bien aussi de partir. J'ai pu avoir certaines lectures que les Negrini m'ont prêtées. Ça m'a bien reboosté. J'ai aussi Anne Pollet qui m'avait offert un livre. Et c'est juste que là-bas, on prend le temps de faire ce qu'on a envie. On arrive le soir, on est fatigué, mais c'est pas une fatigue comme ici où on a le stress. Ça m'a marqué une fois que je suis rentrée. C'était un mercredi. Je me rappelle très bien, le soir, je suis rentrée et je me sentais tendue et stressée. Et ça m'a pas du tout plu. C'est vrai que c'est ce que j'appréhendais, en fait, avant de rentrer. C'était de retrouver cette réalité, parce que, bien sûr, on laisse nos problèmes derrière nous, on laisse certaines choses, on évolue, on change. On a une autre vision par rapport à certaines choses qui grandissent. Mais une fois qu'on revient, ça n'a pas changé, quoi. Donc c'est vrai que ça, j'appréhendais un peu, et heureusement, ça s'est très bien passé. J'avais quand même prévu différentes choses. J'avais le camp de ski, j'avais une semaine de ski avec mes parents. J'avais prévu d'autres stages en physiothérapie également à partir du mois de janvier. Donc ça m'a permis de retrouver assez rapidement le rythme. Donc ça, c'était typique, nos petites sorties, on allait boire le thé. Donc c'est des thés qui sont très sucrés et avec beaucoup de lait. Donc là, on retrouve un petit peu les racines anglaises. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Oui. Ouais. Alors ça, c'était en vacances. Enfin, quand on était dans le sud, on a fait une visite. On était sur des petites pirogues, des bateaux, pour aller visiter une île. Et c'était juste magnifique parce que c'est un grand restaurant. Puis on mange du poulet dans du bambou. En fait, il est chauffé à l'intérieur. Enfin, c'est assez luxe. Et puis, ils n'aiment pas trop qu'il y ait des étrangers qui aillent voir. Ils disent que c'est pour notre sécurité. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus pour surveiller ce qu'on va faire. Donc, ce qui fait que toute la journée, on a eu ces quatre gardes derrière nous. Donc, c'était assez amusant. Mais c'était très sympa. Et enfin, voilà. On s'y fait. Oui. Ah, c'est très vert. Bah, c'est que des rizières. Et c'est vrai que c'est un pays qui est très humide. Il y a beaucoup d'eau. Donc, c'est très, très vert. Pour ça, c'est magnifique. Je suis jamais allée en Afrique, mais c'est vrai que peut-être qu'on a le sentiment que c'est moins pauvre que l'Afrique parce que les paysages sont riches. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on va dans les grandes villes, on revient vite sur terre. Moi, ça m'a assez frappée. La pauvreté, elle m'a plus marquée dans les villes que dans les petits villages. Parce que c'est quand même assez propre, c'est des gens qui ont quand même un toit. Tandis que dans les grandes villes, ils vivent au bord des rails. Enfin, ouais, c'est moins vert, du coup. Quand je parlais de l'église, je me suis souvenue tout à l'heure. En soir, c'était l'église, mais avec les Bengalis. Donc là, c'était pas du tout en anglais, donc c'est vrai qu'on comprenait rien, mais on sentait quand même une certaine présence assez forte. Et il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, quand ils prient tous en même temps. Alors, une fois, ils ont essayé de faire ça dans l'église où il y a plus des Européens, etc. Mais ça marche pas du tout. Alors, je sais pas si une fois vous auriez envie d'essayer, que tout le monde prie à haute voix, c'est vrai que c'est bizarre. Mais ça peut être intéressant d'essayer une fois. Alors là, ça montre très bien le côté curieux des gens. C'était une fois à l'hôpital, justement, où Jean-François a effectué des contrôles de pieds beaux sur des bébés. Et puis là, j'ai fait un gros zoom, mais il y avait sur leur mur une petite ouverture. Il y avait ces deux personnes comme ça qui venaient guigner, mais sans gêne. Donc c'est vrai que j'ai pris cette photo pour illustrer ça. Donc ça, c'est tous les petits magasins, petits boubouis qu'on trouve un peu partout. Ça montre assez bien l'environnement. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était les échanges, que ce soit avec les enfants ou avec les parents Negrini. Avec Jean-François, on a eu des discussions qui duraient des après-midi entières et très intéressantes. Et puis même les filles, en fait, elles ont des remarques. Elles sont tellement directes, en fait. Elles n'ont pas de gêne, et puis elles ont une autre vision des choses. Il y a des choses que même qu'elles ne connaissent pas. Une fois, on parlait de la violence. Je crois que c'était avec Maïka, on parlait de la violence dans le cadre de l'éducation civique. Et puis, ils donnaient l'exemple, oui, dans le préau. Enfin, des choses qu'elles ne connaissent même pas. Puis c'est vrai que j'essayais de leur demander leur avis, d'avoir des exemples. de violence ou de danger qu'elle pourrait vivre au Bangladesh, mais je crois qu'elle ne se rendait juste pas compte de ce qu'on pouvait avoir ici. Alors c'est vrai que ça, des fois il y avait des choses comme ça qui me faisaient un petit peu peur par rapport soit à leur retour en Suisse, soit une fois qu'elles sont au Niger dans une classe avec d'autres élèves. Mais je pense qu'elles sont assez fortes pour faire face à ce genre de trucs. Mais c'est vrai que c'est... On se rend compte qu'il y a quand même des choses qu'elles connaissent pas du tout. J'ai pu faire aussi une soirée pour Thanksgiving avec tous les Occidentaux. Et ça, c'était assez chouette aussi de pouvoir avoir ce partage en commun, de se retrouver avec que des personnes blanches, ça fait bizarre. Et c'était une soirée assez chouette. Je crois qu'il y a 2-3 photos. Donc là, voilà, c'est l'église avec toutes les chaussures devant, parce qu'évidemment, il faut rentrer à pieds nus. Et c'était très sympa. Donc là, c'est les femmes que j'ai rencontrées dans le centre. Ouais, moi, c'est... Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, ou voilà, mais... Oui.
Sur le pays, comme le problème, c'est majoritairement musulman.
Oui.
Comment c'est perçu, en fait, dans cette église, à travers les gens?
Ouais.
C'est pour ça qu'on parle beaucoup de persécution, et par rapport aux chrétiens, c'est majoritairement.
Alors, donc, le campagne est dans le cadre de l'organisation chrétienne, et c'est vrai que ça les dérange des fois un petit peu. Il y a un pasteur qui vient régulièrement visiter les malades, tous les patients, et c'est vrai qu'il y a des conversions qui se font ou des changements, et ils n'aiment pas trop que ça se fasse dans le cadre de l'hôpital. Donc souvent, ils vont dans les villages. Mais là aussi, il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme, mais ils sont ensuite rejetés par la famille. Alors en fait, si ça vient d'eux-mêmes, donc par une révélation d'un rêve ou des choses comme ça, ils l'acceptent beaucoup plus que si c'est le pasteur qui est venu discuter ou si c'est l'influence humaine. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont assez intéressés à notre religion, enfin, à la manière dont on perçoit les choses. Mais après, ils restent quand même assez dans leur truc, quoi.
J'ai une question par rapport à l'église. On voit que quand on enlève les chaussures, c'est dans toutes les églises, ou est-ce que c'est par rapport aux relations avec les
Je sais pas. Moi, je suis allée juste dans cette église-là. Je pense que c'est juste par mesure de propreté et voilà. Mais après, les musulmans, je sais pas comment ça se passe non plus. Parce qu'après, non, parce que c'est vrai que quand je suis allée à Dakar, on est aussi allée à l'église et puis là, on n'a pas besoin d'enlever les chaussures. Donc, je pense pas que c'est une signification particulière. C'est un petit peu dur, en fait, de faire le tri. Parce qu'à chaque fois que j'y repense ou que je regarde les photos, il y a des nouvelles anecdotes, des nouveaux souvenirs, donc c'est pas évident.
Tu pourrais juste nous dire, pour ces 3 mois, ce que ça a changé dans ta vie, dans ce qui vient maintenant et
Déjà, ça m'a donné une plus grande confiance en moi, une assurance par rapport à mes envies de profession, ça m'a rapproché de certaines personnes qui sont proches, que ce soit au niveau de la famille ou des amis. C'est vrai que pour ça, ça m'a fait du bien. Et voilà, comme je disais aussi avant, au niveau de la foi, c'est vrai que ça m'a quand même pas mal boosté. J'ai pu prendre plus le temps de me consacrer à ça. Et après, bon, c'est sûr que quand on revient, c'est plus difficile d'avoir la même régularité, mais... C'est qu'à ce niveau-là, c'était bien. Et c'est juste qu'en fait, malgré moi, il y a certaines réflexions qui se sont faites, mais que ce soit pour des petites choses, hein, des petites bêtises qu'on a pu vivre, ou voilà. On évolue pas mal. Après, j'avais pas d'attente particulière, j'avais pas décidé de changer ci, changer ça, mais c'est vrai que je me rends compte que quand on revient, les premiers jours, on est vite décalé avec les autres. Puis après, ben voilà, on est nouveau dans le système et dans le stress et dans la manière de vivre d'ici.
Ben, merci beaucoup Isabelle pour ce voyage qui fut beau, j'imagine. Et puis bonne chance pour ton retour dans la vie active, ici, parmi nous. Et ben voilà, ben ainsi s'achève cette matinée. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé. Et puis bon dimanche à chacun.